Toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle expérimentation radiophonique qui nous emmène aujourd'hui, ouais, carrément dans les locaux d'Idées Vertes. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est une prise d'otage auditive d'un seul coup qui vous arrive. Et puis pour les personnes qui étaient venues à l'Assemblée Générale d'Idées Vertes, c'est une autre prise d'otage, de discussion, de papotage qui va nous réjouir. Pourquoi est-ce qu'on attaque comme ça aussi vite, aussi fort? C'est parce qu'à côté de nous, nous avons Christine qui a animé un atelier et qui allait l'exposer en fait aux gens qui sont venus voir, aux adhérents qui sont venus assister à cette assemblée générale. Elle allait leur présenter, on a dit non, stop, on arrête tout, on fait tout en radio. Christine, je vous en prie, prenez donc un micro qui est juste à votre portée de main. En 2-3 questions d'abord, et puis après vous nous présenterez le travail bien entendu, mais en 2-3 questions, qui êtes-vous Christine pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas?
Alors Christine Bordet de la Porte, je suis conseillère conjugale et familiale au département et donc j'appartiens au centre de santé sexuelle.
Comment dans ces fonctions-là vous êtes arrivée à Idées Vertes pour travailler avec le public des travailleurs et des travailleuses d'Idées Vertes?
C'est vrai que vous demandez sans doute pourquoi, quel type d'activité il peut y avoir avec le conseil conjugal et le rapport avec l'insertion. Eh bien, je vais vous faire part un peu de mes découvertes et j'ai vraiment eu une expérience magnifique. C'était une expérience nouvelle pour moi de travailler la notion de santé sexuelle avec un groupe de personnes sur leur lieu de travail. Et donc, c'est depuis 6 mois une expérience qui a été très riche. Nous avons appelé nos rencontres des ateliers intimité. Les différents membres étaient très réservés au début et j'ai donc expliqué que d'après la définition de l'OMS, la santé sexuelle c'est un domaine large qui regarde tous les âges de la vie et s'intéresse à la connaissance, à la singularité de chacun et non pas seulement à la sexualité. Je les ai un peu rassurés à ce moment-là. Nous avons démarré avec les émotions et nous les avons regardées avec respect. Reconnaître ces émotions, apprendre à les démêler pour pouvoir les gérer, c'est essentiel pour se connaître mieux et communiquer avec l'autre, qu'il soit notre collègue de travail, comme notre enfant ou notre conjoint. Mettre des mots sur les émotions qui nous traversent, parce qu'elles sont importantes, et aller chercher les besoins qui les ont fait naître. La colère masque souvent tout un nœud d'émotions, des émotions souvent refoulées. C'est plus facile en fait dans tout type de relation humaine quand chacun est capable de dire ce qu'il ressent avant que ça n'explose. Nous avons souvent parlé des enfants, peut-être parce que c'est plus simple d'imaginer pour eux que ça va être utile de savoir gérer ses émotions trop chaudes. Quand on a traversé des périodes de vie extrêmes et qu'on était seul pour se débrouiller, on a pris l'habitude du silence. On se dit qu'il y a de mauvaises émotions et on tente de les abandonner derrière soi. Mais en fait, elles changent, elles chargent jour après jour nos épaules. Il n'y a pas de mauvaises émotions en fait. Elles sont. Il faut donc en prendre soin. Nous avons abordé les violences et la loi en regardant les habitudes notamment des ados et leur présence sur les réseaux sociaux. Nous avons recherché les moyens de les armer. Protéger son intimité, aujourd'hui, c'est comme conduire, ça s'apprend. Un atelier a été consacré aux violences économiques. Notre conclusion commune a pointé la nécessité de développer chacune et chacun notre autonomie pour décider ensemble et jamais les yeux fermés. Nous avons beaucoup parlé de santé. Nous avons listé les moyens de contraception. Nous avons parlé de la grossesse et discuté de son interruption, une possibilité de la loi en France. Nous avons parlé de la charge contraceptive et de la place de chacun. Qu'on soit homme ou femme, la fécondité ou la décision de se protéger doit être partagée par les deux partenaires et parlée. Les échanges ont porté ensuite sur les prises de risques dans la sexualité, les infections sexuelles et leur développement, souvent sans symptômes, comme invisibles. Nous avons parlé du dépistage et des possibilités de l'organiser gratuitement en CEGID, à tout moment de la vie. Prendre soin de soi, c'est connaître les vaccins, les consultations médicales, s'écouter. C'est aussi les contrôles, la mammographie, le suivi gynéco, pour les hommes aussi, avec le dépistage de la prostate. Certaines nous ont parlé de l'excision et de la possibilité de demander une réparation. Retrouver son intégrité et voir le plaisir simplement comme une possibilité de la vie, c'est important. Nous avons souvent évoqué la tradition, ou plutôt les traditions, si singulières de chaque lignée. Régulièrement, nous avons levé le voile de silence. Du silence qui protège la pudeur, mais qui souvent masque la souffrance, empêche même le cri. J'ai remarqué plusieurs fois combien la douleur qui est dite ensemble crée du lien. Ça fait du bien de partager ce qui semblait indicible dans un cercle bienveillant. Évoquer un deuil, un abandon ou un éloignement crée de la douceur et de la force finalement. Ça ne veut vraiment pas dire que la souffrance disparaît, mais la solitude qui en est le boulet s'allège un peu. D'une certaine façon, on peut la porter à plusieurs. Nous avons très souvent raconté les familles, leurs rites de fête, leurs liens, les rôles, leur solidité, mais aussi parfois leur toxicité. Et j'ai envie de finir avec une parole qui m'a beaucoup frappée, celle d'une jeune femme qui est là d'ailleurs ce soir, solo, venue de loin, et qui a dit « Les amis peuvent devenir une deuxième famille ». Voilà, je voulais absolument vous faire part des cadeaux de vérité et de créativité que j'ai reçus ici avec tous. Et je vous invite maintenant à lire les messages sur les bouteilles qui, à mon avis, sont très forts. Voilà, merci à tous.
Merci Christine. Je rappelle que vous travaillez, vous êtes conseillère conjugale au département, hein, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et que vous avez mené cet atelier avec les personnes qui travaillent ici sur Idées Vertes. Merci beaucoup. On en lira durant cette émission quelques-uns des messages que nous égrènerons. On va donc inviter effectivement le public qui est venu aujourd'hui à l'Assemblée Générale. Profitez de ces messages, de ce qui est écrit, puis du coup qui est à boire, bien entendu. Nous, on attend que Charles nous rejoigne en plateau, il ne doit pas être bien loin normalement, il nous rejoindra dans un instant. On va ouvrir l'émission directement avec vous, très cher Charles Lebrasseur, président de l'association, du fonctionnement Idées Vertes. Bonjour, oui, bonjour, comment allez-vous? Commençons par ça.
Eh bien écoutez, ça va bien, je ne sais pas si ça marche.
Oui, ça marche très bien.
Non, c'est une association loi 1901, donc on est bien dans le cas avec un chantier d'insertion.
Alors on va y revenir justement sur ce qu'est Idées Vertes et ce qu'est un chantier d'insertion. Pour nos auditeurs qui nous découvrent, les gens qui sont ici ont assisté à l'Assemblée Générale et ils en savent un petit peu plus. On reviendra aussi sur le lieu dans lequel nous sommes installés, parce que nous sommes au cœur de l'activité, dans la zone de lavage et de reconditionnement des bouteilles. On en reparlera également dans un instant. Mais moi, je voulais revenir très directement sur l'histoire d'Idées Vertes. Idées Vertes est une structure qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui est née de la dynamique aussi avec Idées Vertes. En quelques mots, quelle est l'histoire de cette structure?
L'histoire de la structure, je pense que la Covid y est pour quelque chose dans cette histoire.
C'est un effet positif, c'est ça?
Non, disons que nous, avec Idées Vertes, il y a boutique ouverte au public. Donc, ce qui voulait dire qu'à partir du moment où il y avait ce problème de Covid, eh bien, il a fallu arrêter les activités pendant pas mal de temps. Et on a commencé à se dire qu'en parallèle à ce que pouvait être Idées Vertes, il était peut-être possible de voir une autre activité qui, elle, était une activité qui n'avait pas un lien direct avec le public. Donc, c'est de là qu'est partie la première idée. Ça avait été renforcé aussi parce qu'on s'apercevait que du côté des collectivités, il commençait à y avoir une réflexion sur le devenir du verre, c'est-à-dire que le verre qui est systématiquement récupéré par les collectivités et refondu, c'était peut-être pas forcément la meilleure solution. Christelle est encore dans l'affaire parce qu'elle avait pensé aussi à cette possibilité d'activité. Recycler le verre, mais le nettoyer, ça valait mieux que de le réchauffer. Et donc, on est parti sur cette idée. On a, pendant une bonne année, réfléchi, fait réfléchir à un cabinet d'études qui a été financé par la région, d'ailleurs, au passage, et qui a donné un avis sur la faisabilité de cette activité. Voilà d'où ça part.
Donc ça part une fois de plus d'une idée liée à la contrainte. Et finalement vous transformez ça en un atelier d'insertion qui se déroule ici, un chantier d'insertion pardon qui se déroule ici, un reconditionnement avec un projet qui est à mi-chemin comme chez Idées Vertes entre un projet écologique et un projet social, si on ne considérerait pas que de toute façon ils sont intimement liés.
Oui, les deux sont liés, et puis je crois que quand on connaît un peu les dirigeants, on va dire, des deux associations, on n'est pas étonné de voir que systématiquement, à ce projet économique, il y avait forcément un social à côté.
Et puis écologique, forcément,
écologique.
Ça, c'est génial. On l'a abordé, enfin, vous l'avez abordé durant l'Assemblée Générale, vous avez fait un rapport moral, rapport d'activité, rapport financier, tout a été voté, des entrants de conseil d'administration et tout ça. Ça, c'est l'avis de l'association, bien entendu. Oui. Mais plus largement, plus globalement, quel regard vous portez sur l'année 2026 qui s'est bien enclenchée, mais qui n'est pas encore totalement finie? Quel regard, vous, en tant que président, vous portez sur ce qui se passe?
Eh bien, écoutez, c'est vrai que fin 2025, on pensait que 2026 allait être une année complète, parfaite, où vraiment, là, on avait réglé toutes nos difficultés. Juste un tout petit mot au passage. Je crois que quand on a démarré cette idée d'Idées Vertes, c'était presque un petit peu tôt. C'était pas encore dans tous les esprits et qu'il a fallu convaincre beaucoup de monde au passage. Et que maintenant, les choses évoluent un peu mieux. C'est pas encore complètement réglé, mais que les choses évoluent mieux. Je dirais que 2026 doit être quand même notre année de sortie de galère, parce que ça a été très compliqué pour en arriver là. Et même si le début d'année a eu encore quelques petits accros, je suis convaincu aujourd'hui que fin 2026, ça va être enfin on va dire, IDVR sur un rythme de fonctionnement normal. Notre seul souhait, mais c'est pas très bien parti pour le moment, ce serait de voir que, en parallèle à notre activité économique et écologique en même temps, on puisse avoir l'insertion qui augmente en nombre de salariés, mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le projet du gouvernement, puisque le nombre de postes de salariés en insertion a été réduit cette année.
Alors, je me permets juste de faire un petit parallèle, peut-être pour le grand public qui ne sait peut-être pas trop de quoi nous parlons. Le chantier d'insertion est un dispositif spécifique qui permet à la structure qui se lance dans cette démarche d'avoir des aides pour accompagner des publics. Le projet d'un chantier d'insertion, c'est du travail, oui, mais pas que. Il y a tout un tas d'ateliers et d'accompagnements qui sont produits avec. Aujourd'hui, quelle est la réalité, on va dire, politico-sociale sur cette inquiétude que vous relevez? Vous pouvez compléter ce que je dis, hein, parce que vous êtes bien plus au point que moi, mais j'ai essayé de faire rapide sur ce qui était un chantier d'insertion.
Disons que je dirais que les personnes qui rentrent dans un chantier d'insertion viennent dans un chantier d'insertion pour essayer de retrouver un travail stable, avec une formation parfois supérieure à celle qu'ils avaient dans les 2 ans, puisque la durée maximum sur un chantier d'insertion, c'est 2 ans. Donc, il y a de la part de ces gens-là, normalement c'est le contrat au départ, la volonté de s'investir et d'arriver à cet objectif-là. D'où viennent ces personnes qui rentrent au chantier d'insertion? Je dois dire que pour 80% d'entre elles, même si on n'est pas suivi financièrement pour 80%, sont des gens qui sont au RSA, c'est-à-dire des gens qui sont financés déjà sur du financement public. Donc ça veut dire que pour les comptes des départements, ça vient en moins tout de même. Il faut aussi qu'on pas en totalité, parce que le département remet un peu d'argent avec l'État sur le financement, mais ça veut dire tout de même que ces financements de ces salariés en insertion viennent se faire à la place d'autres financements qui existaient. Ce ne sont pas toujours de nouveaux financements. Donc ce qui veut dire que on arrive... Je crois que tout à l'heure, dans l'Assemblée Générale, on a donné la valeur de 70% de personnes qui sont rentrées et qui ont trouvé un emploi. Donc si on arrive à ramener vers l'emploi les 2/3 au moins des personnes qui entrent chez nous. Et on ne prend pas les gens qui sont les plus proches de l'emploi. On prend aussi des gens qui sont très loin de l'emploi. Quand je vois qu'il semblerait qu'à nouveau, là, les... valeur du chômage ou de nombre de personnes de chômage sont plutôt en train de réaugmenter, je ne crois pas me tromper en disant cela, je vois que c'est contre-productif de nous diminuer le nombre de postes que nous pouvons avoir en insertion, puisque ça veut dire que c'est autant de personnes qu'on ne pourra pas accompagner pour les retours vers l'emploi. Voilà en gros comment je peux parler de ça.
Très bien, c'est important de faire ce tour, on va dire, politique en fait, et c'est bien parce qu'on a le président de l'association qu'on peut faire le tour politique. Je vais être. Alors, je vous vois en radio, oui, mais on va se le dire, on se connaît quand même. Hein, ouais, c'est pour ça qu'on est là et puis qu'on fait l'émission aussi. Charles, je vais te remercier de ton passage. On va discuter avec ceux qui font la vie aussi au quotidien de la zone de travail ou de l'insertion sociale.
J'insiste beaucoup pour dire que IDVR, c'est pas que le président, loin de là. Président, ce n'est qu'un petit morceau de l'ensemble.
C'est bien pour ça qu'on te remercie et qu'on va inviter les autres. Mais il était important sur ce point politique, c'est quand même le président, qui en est garant. Le temps de faire une courte pause musicale et nous revenons dans un instant et nous poursuivons les plateaux. Et puis on vous lira une ou deux bouteilles là que Christine dont nous a parlé Christine. Un petit plaisir, ça va pas nous faire de mal, danser doucement parce qu'il fait chaud quand même, ou danser à l'ombre.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff quoi.
I said
Sharon Jones. Et pourquoi je m'entends pas moi? Bah ça, allez savoir pourquoi je m'entends pas. Ce sont des choses qui arrivent. Sharon Jones, en tout cas, avec le titre Get Doubt. Voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Vous n'aurez pas de jingle cette fois parce que nous sommes en direct, en live et en public de l'usine de Idées Vertes, là où les choses se passent. On est installé en plein milieu de l'espace de travail. Alors ils ont fini de bosser, rassurez-vous. On n'empêche pas du tout les équipes de nettoyer les bouteilles et de les reconditionner, bien entendu. Nous étions avec Charles Lebrasseur, le président de l'association Idées Vertes, il y a quelques instants. Ils sont dans des locaux qui sont situés sur l'agglomération Seineur, juste en sortie de Val-de-Reuil. Je ne sais pas si on est encore sur Val-de-Reuil ou pas. On me dit oui, c'est encore Val-de-Reuil. En tout cas, nous sommes avec Pierre-Julien Bavant et Julia Abreski. Tous deux travaillent pour l'agglomération Seineur sur cette partie du site. Alors, vous êtes meilleurs que moi parce que quand je suis rentré, j'avais le nom et je ne me rappelle plus du nom du site. Parce qu'il y a des petits panneaux à l'entrée. Comment s'appelle ce site? Il a un nom spécifique.
C'est le pôle d'agriculture biologique des Hauts-Prés.
Ouais, Longpré, voilà, c'est ça que j'avais vu sur l'entrée. Il y a une vraie ambition sur ce pôle, j'imagine, par l'agglomération, la communauté d'agglomération, j'imagine, autour de fermes bio, autour des notions d'agriculture, autour d'une notion de local et de réemploi, enfin en tout cas avec une dimension, on va dire, alors je me permets de me déguiler parce qu'on est tout dedans, mais écologique. C'est l'ambition de cette zone-là. Quel est un peu le cahier des charges de ces installations?
C'est 100% l'ambition du cahier des charges, dans le sens où, à la base, en fait, les Hauts-Prés, c'est le nom d'un captage d'eau potable qu'on a voulu protéger justement en développant l'agriculture biologique tout autour. Et ce bâtiment-là est la conclusion de cette opération par la mise en place et l'installation d'opérateurs liés à l'agriculture bio ou en support de l'agriculture bio, comme ici chez Idées Vertes, où ils font du lavage de contenants en verre pour des partenaires du site, mais aussi d'ailleurs, qui interviennent dans la production et la transformation de produits bio.
Il y a une notion aussi d'ouverture vers le public. On voit, il y a une brasserie à côté qui ouvre en soirée sur place. Il y a la ferme sur un côté où on peut acheter directement sur place. Il y a aussi cette ambition, même en zone, on va dire pas industrielle, mais en zone, si c'est une zone industrielle, ouais, c'est l'appellation, d'accord. Même en zone industrielle, pouvoir amener le public directement en contact. Ça aussi, ça fait partie des ambitions d'avoir un lien avec le public au plus proche.
Oui, et il y a plusieurs opérations qui permettent ça en dehors des visites qui sont faites au sein de chacune des structures. L'agglomération organise différents événements dans l'année, notamment deux opérations. Une qui s'appelle Scolaire au Vert, où on fait venir en fait des enfants du territoire dans le bâtiment rencontrer les différents partenaires du site. Et une autre qui est plus tournée vers le grand public, qui se déroulera cette année d'ailleurs le 12 septembre prochain, après-midi. Et on pourra visiter cet espace Idées Vertes notamment, qui permettent en fait de faire connaître aux gens les produits qui sont faits ici. Les produits et les producteurs.
Julia Abreski, vous travaillez autour de la question de l'économie sociale et solidaire, autour de la localité. J'imagine que c'est un beau terrain d'expérimentation, la zone dans laquelle on est aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Idées Vertes est à la fois un acteur de l'économie sociale et solidaire et à la fois un acteur hyper important de l'économie circulaire parce qu'on l'a vu lors de l'AG, il permet de détourner des déchets du recyclage qui consomme, comme on l'a vu, beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité et qui permet de remettre dans le circuit des bouteilles. Et là, donc, il travaille, vous l'avez dit, avec le brasseur, mais il travaille aussi avec beaucoup d'artisans, de commerçants, pardon, et de restaurateurs du territoire. Et au-delà, c'est le seul centre de lavage de contenants alimentaires de Normandie. Donc on est très content d'avoir cette activité vitrine sur le territoire.
Quand on bosse sur une agglo, j'imagine qu'on ne fait pas ça par hasard, hein, qu'il y a un projet derrière un peu plus large. On parlait tout à l'heure d'un cahier des charges et compagnie. Sur Val-de-Reuil ou plus largement sur l'agglomération Seineur, quelles sont les ambitions de développement? Est-ce qu'on est arrivé là sur une zone qui a atteint un fonctionnement, un rythme de croisière? Est-ce qu'on est sur du développement? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a de la demande derrière? volontaires, de soit du public, soit d'entreprises ou d'associations. Comment ça fonctionne un petit peu par rapport au développement de toutes ces questions?
Alors je laisserai ma collègue répondre sur la partie développement au-delà du site Déopré, mais en tout cas aujourd'hui on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé initialement en 2014, que de refaire vivre ce site qui est une ancienne friche industrielle, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et dans laquelle à l'époque il y avait 60 personnes qui travaillaient. Aujourd'hui sur le site, si tout le monde était là en même temps, il y aurait 90 équivalents temps plein, et l'année dernière en 2025 ça a permis de générer un chiffre d'affaires total d'environ 5 millions d'euros, donc c'est pas négligeable, et l'idée en effet c'était de se servir de ce site comme d'un exemple pour pouvoir éventuellement le reproduire ailleurs. Alors il y a certaines caractéristiques qui font qu'on ne pourra pas le reproduire à l'identique.
Mais ça peut donner des idées.
Exactement. L'idée c'était d'inspirer et d'essayer d'envisager une reproductibilité ailleurs sur le territoire. Donc c'est là-dessus qu'on travaille maintenant.
Alors justement, Julia Obreski, au-delà de cette zone des Hauts-Prés, est-ce que ça donne des idées? Est-ce que ça donne des envies de développement? Est-ce que ces fonctionnements qu'on pourrait appeler vertueux font des petits ou est-ce qu'il y a des ambitions carrément beaucoup plus larges qui m'auraient échappé?
Oui, il y a des ambitions de l'aglo. Donc on a une politique sur l'économie circulaire, donc sur l'économie de matière, le réemploi et une meilleure gestion des déchets. On a une stratégie sur le développement aussi de l'économie sociale et solidaire, donc d'activité en réponse aux besoins du territoire. On a un projet qui s'appelle Écosystème ESS en Seineur, où on a l'ambition de favoriser la création de nouvelles activités qui seraient portées par des acteurs ESS. Et donc là, on réfléchit. Enfin oui, on aimerait avoir des pôles comme celui-ci sur le réemploi, par exemple, sur le réemploi d'objets, sur le réemploi de déchets ménagers. On aimerait avoir la même chose. Enfin oui, on aimerait développer tous ces écosystèmes vertueux. Et au niveau des entreprises, il y a aussi de la demande sur la mise en réseau, la mise en lien des différentes entreprises pour mieux gérer, mieux valoriser tous leurs coproduits et tous leurs déchets.
Vous avez des retours, j'ai envie de dire, de consommateurs ou d'habitants de l'agglomération sur ces façons de faire qui sortent, j'ai envie de dire, du modèle dominant classique. Vous avez des retours des usagers ou des habitants sur ces façons, je ne vais pas dire alternatives, mais en tout cas d'économie sociale et solidaire, est-ce qu'ils sont sensibles à ces questions-là?
Oui, en ce moment, on est en train de renouveler notre plan de prévention des déchets ménagers. Donc, il y a eu